CODA. L'impact des jobs à la con sur la créativité humaine et en quoi tenter de s'affirmer créativement ou politiquement face au travail vain relève d'une forme de combat spirituel. J'aimerais conclure ce chapitre en revenant sur le thème de la violence spirituelle. Il est difficile d'imaginer plus déshumanisant ou démoralisant, pour reprendre le terme de Mina, que d'être contraint à commettre des actes de cruauté bureaucratique arbitraire contre son gré, à devenir le visage de la machine que l'on méprise, à se muer en monstre. J'ai remarqué par exemple que, dans la fiction populaire, les monstres les plus effrayants ne sont pas ceux qui vous déchiquetent, vous torturent ou vous tuent à coups de dents, mais ceux qui vous menacent de vous transformer vous-même en monstre. Pensez aux vampires, aux zombies, aux loups-garous. S'ils sont si terrifiants, c'est parce que, au-delà de votre corps, ils s'en prennent à votre âme. Voilà pourquoi, sans doute, ils fascinent tant les adolescents. L'adolescence est précisément la période où nous sommes confrontés pour la première fois à cette difficulté. Essayer de ne pas devenir les monstres que nous méprisons. Les emplois inutiles ou trompeurs, qui ne sont qu'une mascarade de service public, sont peut-être les pires, mais presque tous les emplois mentionnés dans ce chapitre sont démoralisants à leur manière. Les jobs à la con engendrent souvent le désespoir, la dépression et la haine de soi. Ce sont des formes de violence spirituelle qui s'en prennent à l'essence même de l'humain. Et comment pourrait-il en être autrement quand on sait que l'intégrité de la psyché humaine, et même l'intégrité physique d'une personne, si tant est qu'on puisse distinguer l'une de l'autre, sont intimement liées aux relations avec autrui et à la conscience de notre capacité à avoir des effets sur le monde. Cela ne veut pas dire que l'âme n'est aucun moyen de résistance. D'où mon idée de conclure ce chapitre non seulement en prenant acte de la guerre spirituelle qui s'est engagée, mais aussi en montrant comment les travailleurs parviennent à rester sains d'esprit en s'impliquant dans d'autres projets. Appelez cela une action de guérilla, si vous voulez. Robin, l'intérimaire qui avait trafiqué son ordi pour laisser croire qu'il faisait de la programmation alors qu'il surfait sur le web, a utilisé le temps ainsi libéré pour assurer, bénévolement, la veille de quantité de pages Wikipédia, y compris apparemment la mienne, et pour contribuer à faire fonctionner un système de monnaie alternative. Certains créent des entreprises, écrivent des scénarios de films ou des romans, ou encore montent discrètement des sites proposant des services de soubrette en petite tenue. D'autres, cependant, se réfugient dans des rêveries à la Walter Mitty, un mécanisme de survie classique pour tous ceux qui sont condamnés à passer leur vie dans des univers de bureaux stériles. Ce n'est probablement pas un hasard si aujourd'hui, la plupart ne s'imaginent plus en pilote d'élite, princesse ou star pour midinette, mais rêvent simplement d'avoir un meilleur job, juste bêtement meilleur. Boris travaille dans une grande institution internationale, a rédigé des rapports à deux balles. Voici son récit, empreint d'une dérision évidente. Boris. C'est vraiment un pur job à la con, parce que j'ai tout essayé. Les bouquins de développement personnel, les petites pauses masturbation, les coups de fil en larmes à ma mère, les grandes introspections pour me rendre compte que je n'ai fait que des choix nuls à chier dans mon existence. Mais finalement, je reste pour pouvoir payer mon loyer. Non seulement cette situation me plonge dans la dépression, douce ou sévère selon les moments, mais elle m'oblige à repousser ma vraie mission dans la vie. Devenir l'assistant personnel de J-Lo ou de Beyoncé. Séparément ou simultanément, les deux me vont. Je suis un gros bosseur, très soucieux d'obtenir des résultats, donc je crois que je m'en sortirai bien. Je serai également prêt à travailler pour un membre de la famille Kardashian. Kim, de préférence. Un grand nombre de témoignages insistent sur la créativité comme une forme de défi. Ainsi, Le courage obstiné avec lequel beaucoup poursuivent des projets artistiques, musicaux, littéraires ou poétiques, est un antidote à l'absurdité de leur vrai job rémunéré. Bien sûr, il faut prendre en compte ici les biais liés à mon échantillon. De nombreuses réponses émanent des followers de mon compte Twitter, parmi lesquels on trouve probablement plus de personnes créatives et politiquement engagées que dans l'ensemble de la population. Je ne vais donc pas spéculer sur la fréquence de ces attitudes. Néanmoins, on peut voir se dessiner quelques tendances intéressantes. Penchons-nous tout d'abord sur le cas des travailleurs embauchés pour une compétence particulière qu'ils n'auront quasiment jamais l'occasion de déployer par la suite. On remarque que, lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ont du temps à tuer au travail, ils choisissent rarement de l'occuper en mobilisant cette compétence précise. Presque toujours, ils décident de faire autre chose. Souvenez-vous de Ramadan, l'ingénieur rencontré au chapitre précédent qui rêvait de travailler dans les sciences et les technologies de pointe. Quand il a compris que tout ce qu'on lui demandait, c'était de remplir de la paperasse à longueur de journée, il a simplement laissé tomber. Au lieu de poursuivre des projets scientifiques en douce, il s'est jeté à corps perdu dans les films, les romans et l'histoire des mouvements sociaux égyptiens. C'est un schéma classique. Ainsi, Fay, qui envisage d'écrire une brochure intitulée « Comment sauvegarder votre âme en entreprise », a trouvé le salut dans la musique. Fay. C'est la musicienne frustrée en moi qui s'est exprimée. Je me suis mise à inventer des manières d'apprendre silencieusement la musique tandis que je suis coincée derrière mon bureau. Pendant un temps, j'ai étudié la musique indienne traditionnelle et j'ai assimilé deux de ses systèmes rythmiques. L'approche indienne est abstraite, numérique et non écrite. Du coup, elle se prête parfaitement à une pratique muette et invisible, juste dans sa tête. Ça veut dire que vous pouvez improviser des musiques au bureau, y compris en incorporant des éléments du monde qui vous entoure. Par exemple, pendant qu'une réunion s'éternise, vous pouvez groover au son d'un tic-tac d'horloge en faisant un morceau super funky, ou bien transformer une sonnerie de téléphone en un poème rythmique. Vous pouvez scander les syllabes du jargon d'entreprise comme si c'était du hip-hop, ou bien interpréter les dimensions de l'armoire à dossier comme une polyrythmie. Tout cela m'a quelque peu protégé de l'ennui d'une profondeur insondable que j'éprouve au travail. Il y a quelques mois, j'ai même dispensé un petit cours à des amis sur le thème « Comment utiliser les jeux rythmiques pour moins s'emmerder au bureau ?» Lewis, qui se définit comme « faux banquier d'affaires » dans une boîte d'audit en finance située à Boston, travaille sur une pièce de théâtre. Quand il a compris qu'il ne jouait aucun rôle dans l'entreprise, il a perdu toute motivation et, avec elle, toute capacité à se concentrer pendant le temps de travail effectif qu'exigeaient ses tâches, une ou deux heures par jour. Sa chef était une maniaque des horaires et des apparences, mais semblait remarquablement indifférente à sa productivité. Elle avait l'air de se moquer éperdument de ce qu'il fabriquait, du moment qu'il ne quittait pas le bureau avant elle. Ce qui a poussé Lewis à chercher un moyen de tenir le coup, c'est un sentiment de culpabilité qu'il décrit comme typique du Midwest américain. Lewis. Ma chance, c'est d'avoir un bureau à hauteur ajustable, ainsi que des montagnes d'heures occupées à des tâches à la con, voire totalement libres. Et ça me fait un peu culpabiliser. Du coup, ces trois derniers mois, j'ai utilisé ce temps-là pour m'atteler à l'écriture de ma première pièce. Bizarrement, le moteur de cette production créatrice, c'est la nécessité plutôt que le désir. En effet, j'ai remarqué que je suis infiniment plus productif et plus efficace après avoir travaillé sur une scène ou un dialogue. En gros, pour pouvoir abattre le vrai boulot dont je dois m'acquitter chaque jour, environ 70 minutes, il me faut d'abord 3 ou 4 heures de création littéraire. Fay et Lewis sortent du lot, car ce que déplorent souvent les personnes coincées toute la journée dans un bureau à ne rien faire, c'est justement la difficulté de réaffecter leur temps à quelque chose d'utile. On aurait pu penser que priver des millions de jeunes gens instruits de toute responsabilité professionnelle digne de ce nom, mais en leur donnant accès à Internet, qui est au moins en puissance le réceptacle de l'ensemble des connaissances et réalisations culturelles humaines, pourrait potentiellement provoquer une sorte de nouvelle renaissance. À mille lieues d'un tel scénario, ce qu'on a vu, c'est une floraison de réseaux sociaux. Les Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et autres médias électroniques que l'on peut produire et consommer en faisant mine d'être occupé à autre chose. Je suis convaincu que la prolifération des jobs à la con, couplée à la bullshitisation croissante des vrais boulots, est le principal facteur de l'essor des réseaux sociaux. On l'a vu, les conditions d'exercice des jobs à la con varient énormément selon les cas. Certains employés sont surveillés sans relâche. D'autres doivent effectuer quelques tâches symboliques, mais à part ça, on leur fiche plus ou moins la paix. La plupart se situent entre ces deux extrêmes. Pourtant, même dans les situations les plus avantageuses, il faut rester sur ses gardes et dépenser un minimum d'énergie pour jeter des coups d'œil par-dessus son épaule, faire illusion, ne pas paraître trop absorbé, maintenir sa collaboration avec les collègues dans des limites raisonnables. Tout cela crée un type de disponibilité intellectuelle qui convient davantage aux jeux en ligne, aux chaînes YouTube, ou même aux polémiques qui fleurissent sur la twittosphère, que, mettons, aux groupes de rock psychédéliques, à la poésie sous acide ou au théâtre expérimental né au milieu du XXe siècle à l'âge d'or de l'État-providence. On assiste donc à un essor de ces formes de culture populaire que les employés de bureau peuvent produire et consommer dans le temps émietté dont ils disposent sur ces lieux de travail ou même quand ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas le droit de le reconnaître. Le problème que soulignent certains témoignages, c'est que les modes d'expression artistique traditionnels ne peuvent tout simplement pas se déployer dans un job à la con. Padraig, diplômé d'une grande école d'art irlandaise, a été contraint de prendre un job absurde dans une multinationale high-tech étrangère à cause de la complexité du système social et fiscal irlandais, qui, comme il l'explique, rend presque impossible de travailler en indépendant, à moins d'être déjà riche. Ce faisant, il a dû renoncer à sa vocation. Padraig. Le truc qui me tue, c'est que même quand je ne suis pas au boulot, je suis incapable de peindre, de dessiner ou de gratter sur la toile en laissant libre cours à mes élans créatifs. J'arrivais vraiment à me concentrer là-dessus quand j'étais au chômage, sauf que ça ne payait pas. Maintenant, l'argent est là, mais je n'ai plus ni le temps, ni l'énergie, ni la tranquillité d'esprit pour créer quoi que ce soit. Il réussit tout de même à rester politiquement actif. C'est un anarchiste convaincu, déterminé à détruire le système économique qui l'empêche de réaliser son vrai projet de vie. Pendant ce temps-là, James, assistant juridique à New York, en est réduit à des actes de protestation subtile. « Comme je passe mes journées dans un environnement de bureau stérile, mon esprit est totalement engourdi. Tout ce que j'arrive à faire, c'est consommer des médias stupides. C'est sûr, parfois ça me déprime profondément. L'isolement, la futilité, la fatigue. Mon seul petit acte de rébellion, c'est l'étoile noire et rouge épinglée sur ma veste chaque jour. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire, ces cons. » Ce sont les couleurs du drapeau anarchiste. J'ai aussi discuté avec Harry, psychologue britannique. À cause des réformes de l'enseignement supérieur mises en œuvre par Tony Blair dans les années 1990, il a été viré de son poste d'enseignant et réembauché comme expert projet pour étudier les effets des licenciements de profs. Harry. J'ai été surpris qu'il soit si difficile de réaffecter le temps pour lequel on est payé. Je me serais senti coupable d'esquiver les tâches à la con et d'utiliser ce temps-là pour tenter d'écrire un roman, par exemple. Je tenais à m'acquitter au mieux du travail qui m'avait été assigné, même si je savais qu'il était totalement creux. David. C'est un thème qui surgit sans cesse dans les messages que j'ai reçus. Votre job est censé être merveilleux, puisque vous êtes très bien payé pour ne pas faire grand-chose, voire rien du tout, parfois sans même être obligé de faire semblant de travailler. Pourtant, cela vous rend fou, parce que vous ne parvenez pas à mobiliser votre temps et votre énergie pour les diriger vers autre chose. Harry, ce que je vis en ce moment va tout à fait dans votre sens. Je suis actuellement responsable de formation dans un dépôt de bus. Cela n'a peut-être rien de glamour, mais au moins le but poursuivi est évident. Et je vous assure que j'abats infiniment plus de boulot en freelance, nouvelles, articles, pour le plaisir, que quand je végétais dans des jobs complètement oiseux. David, on a peut-être mis le doigt sur quelque chose, là. Harry, oui, c'est une dimension vraiment intéressante.